Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Premièrement, le royaume est un trésor, mais un trésor caché. Deuxièmement, le royaume fait de nous des chercheurs par nature. Et troisièmement, le royaume exige un prix. Et ce prix, c'est le champ tout entier. Quand Jésus dit que le royaume est semblable à un trésor caché dans un champ, il utilise un mot grec. Ce mot grec, c'est thésauros, T-H-E-S-A-U-R-O-S. T-H-E-S-A-U-R-O-S. C'est de ce mot grec que vient notre mot thésaurus. Thésauriser. Ce mot ne désigne pas simplement un objet de valeur, il désigne un dépôt accumulé, une réserve de richesse constituée au fil du temps. Je reprends. Quand Jésus dit qu'il y a un trésor caché dans un champ et que le royaume est ce trésor, il ne fait pas référence simplement à un objet de valeur, il fait référence à une réserve de richesse. C'est un coffre-fort divin, enterré dans le sol de l'existence humaine. Réserve de richesse. Que quelqu'un dise réserve de richesse. Voilà. Et le mot caché, qui est tiré du grec, ou du moins, qui en grec est krupto, K-R-U-P-T-O, signifie littéralement voiler intentionnellement. Voiler intentionnellement. Ça veut dire que le trésor qu'on appelle le royaume n'est pas perdu. Le trésor qu'on appelle le royaume n'est pas égaré. Il est délibérément dissimulé. Dieu a volontairement placé la plus grande richesse de l'univers, son royaume, dans un endroit où il faut chercher pour le trouver. Dieu n'a pas posé son royaume sur une étagère dans une vitrine. Dieu n'a pas exposé son royaume. Dieu l'a enfui. La plus grande richesse de tout l'univers ne se trouve pas dans un magasin exposé. Elle se trouve dans un champ caché. Pourquoi est-ce que Dieu l'a enfui ? Proverbe 25, 2, si on peut mettre ce texte sur l'écran. La Bible dit ceci et je lis. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il y a deux gloires en tension créatrice. La première gloire appartient à Dieu. Il cache. Écoutez-moi bien. Salomon dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Donc, quand Dieu veut se glorifier dans la vie de quelqu'un, il cache. Quand Dieu veut se distinguer, il n'expose pas d'abord, il cache. Ce qui sépare Dieu des hommes, c'est que Dieu a accès à quelque chose qu'il cache, que les hommes ne connaissent pas, que les hommes ne voient pas. Le mot caché signifie couvrir, envelopper, protéger. Ça veut dire que Dieu cache ses trésors, non pas pour les garder loin de vous, mais pour les protéger de ceux qui ne le méritent pas. Dieu ne cache pas parce qu'il ne veut pas que tu trouves. Il cache parce qu'il ne veut pas que n'importe qui trouve. Vous êtes là? Donc, quand tu as le sentiment que Dieu te cache, c'est parce qu'il veut qu'on te trouve. Mais pas n'importe qui. Vous connaissez ce texte? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible dit que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que trouver, bon, le mot femme, c'est le mot femme en français, mais en hébreu, c'est le mot épouse. Celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Vous me suivez? L'épouse est donc cachée. Au milieu de toutes les femmes, il y a des épouses. Elles ne sont pas mariées, mais elles sont déjà épouses. Donc ce n'est pas le mariage qui fait d'une femme une épouse. Mesdames, est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le fait qu'on te retrouve qui fait de toi une épouse. Tu es une épouse cachée dans une femme. Au milieu des autres femmes. Maintenant, il faut qu'un type d'homme te cherche. Donc, mesdames, ne rendez pas la vie facile aux hommes. J'essaye d'aider les femmes, mais les femmes ne veulent pas être aidées aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Je le dis, ce n'est pas dans mes notes, mais je le dis parce que je veux aider quelqu'un. Proverbe 31 parle d'un type de femme, la femme vertueuse. On dit qu'elle a plus de valeur que les perles. La Bible la décrit comme étant la femme qui se lève avant tout le monde, qui donne du travail à ses ouvriers, qui pense à un champ et elle l'acquiert. La Bible dit qu'à cause d'elle, son mari est loué aux portes. Et j'entends beaucoup d'hommes dans l'église et même parfois hors de l'église qui cherchent des femmes vertueuses. Sauf que le texte indique que la femme de Proverbe 31, qui est décrite comme une femme vertueuse, est l'épouse d'un roi. C'est une mère qui parle à son fils qui est roi et qui lui décrit le type de femme que le roi doit avoir. C'est important, mesdames. Ça veut dire que si vous voulez faire sortir les rois de leur cachette, soyez des femmes vertueuses. Parce que normalement, une femme vertueuse n'est pas trouvée par tous les hommes. Beaucoup cherchent ce genre de femme, mais peu les trouvent. Pourquoi? Parce que la femme vertueuse ne se trouve pas au marché. Quand je parle du marché, je ne parle pas du lieu où on fait nos achats. Je parle de cet environnement facile d'accès. En fait, Boaz ne pouvait avoir que Ruth comme femme. Parce que Ruth est le type de femme qui est capable d'aller glaner. Pendant que les autres femmes sont occupées à la maison, restent cachées quelque part. Ruth comprend parce qu'elle est poussée par Naomi à aller glaner dans le champ de Boaz. Je suis en train de vouloir aider quelqu'un à réaliser qu'en fait, tu trouves en fonction de qui tu es. Tu ne trouves pas en fonction seulement de ce que tu cherches. Tu trouves en fonction de ce que tu es. La deuxième gloire appartient au roi. Les rois sondent. Le mot hébreu, c'est chakar. C-H-A-K-C-H-A-Q-A-R. Ce mot fait référence au fait de fouiller, d'examiner, d'investiguer en profondeur. C'est le mot qu'on utilise pour décrire un mineur qui creuse la terre à la recherche d'or. Alors, si Dieu cache, parce que c'est sa nature souveraine, il révèle à ceux qui cherchent. Jérémie 29, 13. Managadi allo de bari tanama antilai. Oh God, help us. Jérémie 29, 13. La Bible dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est donc possible de ne pas trouver ce qu'on dit chercher parce que le cœur n'y est pas. Ah Dieu, aide-moi. Vous me chercherez et vous me trouverez. Pas peut-être vous me trouverez. Non, non, non. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a donc un lien entre le fait de chercher et de trouver. Il y a un lien de cause à effet. Normalement, si tu cherches, tu dois trouver. Matthieu 7, 7. Si tu cherches, tu dois trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez. La seule condition, c'est le cœur. Tu dois chercher de tout ton cœur. Matthieu 7, 7. Lisons 1, 2, 3. Et l'on vous donnera, cherchez, frappez. Je veux aider quelqu'un ce matin. Pendant longtemps, j'ai lu ce texte. Et comme vous, comme certains d'entre vous, j'ai été profondément frustré. Parce qu'après avoir demandé, je n'ai pas reçu. Après avoir cherché, je n'ai pas trouvé. Après avoir frappé, personne ne m'a ouvert. Il y a quelques années, alors que j'étais dans une profonde détresse intérieure, parce que cherchant Dieu et ne le trouvant pas, j'étais sur le point d'abandonner lorsque l'Esprit de Dieu a imposé à mon esprit une pensée. Il m'a dit, relis le texte, et j'ai relu le texte. Et le texte dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Tu t'as entendu? Frappez et l'on vous ouvrira, c'est ça? Dans ces mots, il y a deux choses qui ne dépendent pas de vous seulement. Si je demande au révérend Will sa tablette, le révérend Will a le choix de me dire non. Mais le texte dit, si je demande, on va me donner. Si je frappe à la porte de quelqu'un, la personne peut dire, elle n'ouvre pas. Vous êtes là? Mais le texte dit, on va m'ouvrir. Mais s'il y a une chose qui ne dépend que de moi, c'est la recherche, la quête. Cherchez pas et on vous aidera à trouver. Pas et on vous emmènera à trouver. Cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que ceux qui ont le sentiment que les gens ne sont pas là pour eux, les gens ne leur donnent pas, les gens n'ouvrent pas quand ils frappent, doivent se spécialiser dans la recherche. Vous devez devenir des chercheurs. Parce que le chercheur ne dépend pas d'autre chose que de lui. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, est-ce que tu entends ce que l'évêque dit ce matin? Je peux demander au révérend Guy, donne-moi. Le révérend Guy dit, ok, demain. Mais le chercheur, mon Dieu, que Dieu m'aide ce matin. Le chercheur ne dépend même pas de l'or. S'il y a de l'or quelque part et que le chercheur continue à chercher, tôt ou tard, le chercheur va le trouver. Le chercheur ne dépend pas de quelqu'un. Les chercheurs se lèvent très tôt le matin et rentrent très tard le soir. Les chercheurs ne dorment pas quand tout le monde dort. Les chercheurs dépendent d'eux-mêmes. Parce qu'un chercheur est déterminé à trouver quelque chose. Les gens ne le comprennent pas. It doesn't make sense. Il ne fait pas sens. Pourquoi est-ce que tu te lèves très tôt? Parce que je cherche. Pourquoi est-ce que tu rentres très tard? Parce que je suis un chercheur. Pourquoi est-ce que tu te délocalises? Parce que je suis en pleine recherche. Certains d'entre vous, je vous dis la vérité, vous êtes des chercheurs. Ça se voit dans votre éthique de travail. Ça se voit dans votre façon de travailler. Vous vous levez très tôt quand les gens dorment. Et vous vous dormez après tout le monde. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise sans être un vrai chercheur. Un vrai chef d'entreprise vient avant ses employés, part après ses employés, parce que c'est un chercheur. Quand quelqu'un cherche une promotion, la personne fait des heures supplémentaires. Quand quelqu'un cherche un travail, elle est en stage. La personne est d'accord d'être disponible partout. Pourquoi? Parce qu'elle cherche quelque chose. La quête ne te laisse pas sur place. La quête te met en mouvement. La vraie recherche attrape tes tripes. Je vais parler des chercheurs sous peu, mais dans la vie quotidienne, je veux que vous notiez que les plus grandes opportunités ne sont jamais évidentes. Le pétrole est sous terre. Les diamants sont enfouis dans la roche. Les perles sont au fond de l'océan. Tout ce qui a de la valeur dans ce monde est caché. Tout. Et ce qui justifie qu'une chose ait de la valeur, c'est sa rareté ou la difficulté d'accès. Le royaume ne s'impose pas, il se découvre. Le royaume ne force personne, il récompense ceux qui cherchent. Il y a trois niveaux dont je veux parler courtement dans la quête. Je vais essayer d'être pratique. Et sous peu, par la grâce de Dieu, je vais prêcher un peu et ensuite on va prier. J'enseigne, ou du moins je pose ces fondements, parce que je veux qu'au-delà de ce que je vais dire ou de l'atmosphère qui se dégage, que tu repartes avec quelque chose, que tu as écrit avec une pensée qui s'est installée sur ton cœur. Pour ceux qui commencent dans leur marche avec Dieu, ceux qui débutent, peut-être nouvellement convertis, ça fait quelques mois, peut-être un an, que vous êtes maintenant dans le Seigneur. Et vous aspirez à une relation plus grande avec Dieu. Commencez à lire la Bible. Pas comme un livre religieux, mais comme une carte au trésor. Chaque page contient des indices. Chaque verset est un indice. Demandez au Saint-Esprit chaque matin, « Montre-moi ce qui est caché dans ta parole. » Ne lisez pas la Bible comme vous lisez l'Union. Approchez-vous du texte avant d'ouvrir la Bible, priez. Dites, Saint-Esprit, parle-moi. Révèle-moi ce que je ne connais pas. Laisse-moi te trouver. Lisez la Bible parce que vous cherchez quelque chose. Pas pour faire plaisir à un être humain, pas pour impressionner un frère ou une sœur en Christ, pas pour citer des versets simplement, mais parce que vous avez besoin de direction. Vous voulez que Dieu apporte la lumière. J'ai besoin que tu me parles. Je vis telle ou telle situation. Oh Dieu, parle-moi. Le premier moyen par lequel Dieu va vous parler, c'est sa parole. Pour ceux qui sont déjà croyants depuis des années et qui sont établis dans la foi, vous êtes à l'église depuis 5 ans, 10 ans, refusez la routine spirituelle. Refusez la routine spirituelle. Si votre temps de prière et de méditation ne vous révèle plus rien de nouveau depuis des mois, c'est que vous avez cessé de chercher. Si à chaque fois que tu viens à l'église, tu as le sentiment que de toutes les façons, tu sais ce qui va être dit, c'est que tu as arrêté d'être un chercheur. Si la parole ne te parle plus, si l'adoration ne t'émeut plus, si tu ne rentres plus dans sa présence, si tu n'as plus la douce voix du Saint-Esprit que tu entends, c'est que tu as arrêté de chercher. Et c'est possible d'être un vieux chrétien et d'avoir arrêté de chercher. La plupart des anciens chercheurs sont des chrétiens frustrés. Pour les leaders, vous êtes ici et vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un qui a la responsabilité d'autres personnes. C'est vous qui enseignez, c'est vous qui prêchez, c'est vous qui dirigez, vous êtes responsable. Dans votre famille, c'est vous qui parlez à vos enfants et qui leur montrez les voies du Seigneur. Je veux que vous notiez que le leader du royaume est d'abord un chercheur en chef. Vous devez être le plus grand chercheur de votre environnement. Si vous êtes leader, votre leadership se démontre d'abord dans votre capacité à rechercher. Vous ne pouvez conduire personne vers un trésor que vous n'avez pas vous-même découvert. Tu ne peux pas dire que tu es un leader. Tu nous emmènes, nous. On te suit pourquoi? La crise du leadership dans nos églises, c'est la crise de la recherche. Des leaders qui ne cherchent plus, des pasteurs qui recyclent de vieilles révélations. Redevenez des chercheurs. Qui Qui aimerait venir à l'église régulièrement et à chaque fois que la parole est prise par un homme de Dieu, c'est un vieux message. C'est-à-dire que du réchauffer tout le temps. Qui va continuer à venir au culte? C'est-à-dire même si tu aimes Dieu, à un moment, soit tu vas faire ton culte avant de venir, soit ton culte après. Tu vas aller regarder, je ne cite rien, tu vas aller regarder des cultes en ligne. Parce que tu n'es plus nourri. Le piège numéro un qui empêche les chrétiens ou aux chrétiens de trouver le trésor du royaume, ce n'est pas l'ignorance. Le piège numéro un des chercheurs, c'est la familiarité. C'est de croire qu'on connaît déjà. C'est d'avoir entendu tellement de prédications qu'on pense avoir tout compris. Je vais le lire comme je l'ai écrit. La familiarité est l'ennemi de la révélation. Il y a quelques années, tu peux changer, il y a quelques années, j'ai plusieurs Bibles dans mon bureau. Il y a quelques années, j'étais arrivé à un point où ma Bible, en papier, j'avais souligné tellement de versets. Je l'avais lu en entier plusieurs fois, j'avais fait des recherches. Et donc à chaque fois que je m'approchais de la Bible pour lire, il y avait des écrits à côté, il y avait les anciennes révélations. Et je n'arrivais plus à entendre de nouvelles choses à cause des anciennes choses que j'avais déjà reçues. J'ai fait quelque chose de radical que je fais parfois de manière cyclique. J'ai acheté une nouvelle Bible. J'ai mes anciennes Bibles avec marqué les feutres, stabilo, les écritures, et puis j'ai de nouvelles Bibles. Parce que là, quand je m'approche du texte, je ne sais rien. Je m'approche comme un enfant qui est enthousiasmé à l'idée de découvrir ce que son père veut lui montrer. Je fais l'effort à chaque fois que je suis dans la maison de Dieu ou que j'écoute un prédicateur de faire taire ce que je sais. De telle sorte que même si je suis plus ancien que lui dans le ministère, je considère que s'il parle de la part de Dieu, si elle parle de la part de Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut me dire. Je n'écoute jamais pour les autres. Jamais, jamais, jamais. Quel que soit qui parle, je ne me dis pas, oh, Marguerite aurait dû entendre ça. Michel, non. Quand j'écoute, je dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, à la fin du culte, Dieu m'a parlé. Et le voisin dit, c'était pas intéressant. C'est parce qu'on n'a pas écouté de la même manière. Moi, je suis un chercheur. Donc, quand quelqu'un parle, au-delà de ce que la personne dit, je cherche ce que Dieu dit. Il y a les mots du prédicateur et il y a les mots de Dieu dans la bouche du prédicateur. À Nazareth, ceux qui connaissaient le mieux Jésus étaient ceux qui le comprenaient le moins. Il disait, n'est-ce pas le fils du charpentier? Le verbe que Jésus utilise pour chercher, ce n'est pas un verbe passif, ce n'est pas espérer, ce n'est pas attendre, ce n'est pas prier vaguement. Ce verbe signifie poursuivre activement, investiguer, traquer avec détermination. C'est le mot qu'on utiliserait pour un détective qui traque un criminel ou un scientifique qui poursuit une découverte. Ce verbe est à l'impératif présent continu, ce qui signifie littéralement n'arrêter jamais de chercher. Chercher n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Chercher n'est pas une activité, c'est l'ADN du royaume. Le royaume, les hommes et les femmes du royaume, les fils et les filles du royaume sont des chercheurs.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.